Bonjour et merci pour votre accueil, encore une fois. Je suis heureux de servir parmi vous. C'est un service... Le micro fonctionne pas? C'est moi qui fonctionne mal. Voilà. Est-ce que ça va mieux là, comme ça? Ouais. Voilà, ben, je disais que j'étais heureux de servir parmi vous et de profiter de cette communion qui est la vôtre. Voilà, c'est une manière de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Moi, je viens donc d'Aubagne, de Marseille, une église sœur de la vôtre. Et puis, au-delà, ça ne marche toujours pas. Ah, voilà. Voilà. Bien, mais là, ça va aller mieux. Voilà, bien, on va commencer tout de suite. Je vous invite à prier avec moi avant de commencer. Notre Père céleste, oui, il est bon de nous rappeler que ta parole, c'est la vérité et que nous avons besoin d'être conduits dans cette vérité. Ouvre nos cœurs à cette parole et fais taire en nos cœurs toute autre voix que la tienne. C'est dans le nom de ton Fils que nous te prions. Amen. Voilà, vous avez donc sous les yeux le texte qui fera l'objet de ma prédication, qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la Vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?» car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Nous sommes donc dans le temps de l'Avent, cette période qui a été retenue par l'Église pour nous préparer à fêter la venue du Christ, à fêter la naissance de celui qui est venu dont nous attendons aussi encore la venue. Eh bien, dans notre lecture, on est aussi dans l'attente d'un événement, celui de la première venue du Messie. Attente qui se vit dans les derniers mois, mais qui souligne aussi que Jésus n'est pas venu sur terre de manière improvisée. En d'autres mots, que le plan divin, en fait, s'inscrit dans une longue histoire. Comme vous l'avez certainement remarqué, dans notre récit, le personnage principal, c'est Marie, celle qui a cru, comme dit sa parente. C'est elle qui va principalement nous intéresser pour situer notre foi et notre place, mais une foi et une place dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Alors, bien, on y va tout de suite. Et je parlerai d'abord de la continuité dans la réalisation du dessein divin. D'abord, Marie est une fille d'Israël, de la même famille qu'Élisabeth, qui elle-même est descendante d'Aaron. Elle est donc issue d'une famille sacerdotale en Israël, et pas n'importe laquelle, puisque c'est la famille d'Aaron, bien connue dans l'histoire. Premier point de contact avec l'histoire. Quant au rôle annoncé par l'enfant, pour l'enfant qu'elle porte, là aussi, il n'y a aucun doute sur son lien à l'histoire d'Israël. Dieu lui donnera le trône de David, et l'ange d'ajouter même que David est son père, qu'il régnera toujours, pour toujours, sur la maison de Jacob. Alors même s'il est appelé le fils du Très-Haut, bien Jésus hérite aussi de toute l'histoire d'Israël. On peut dire également que si Marie choisit d'aller voir sa parente au prix d'une longue expédition vers les montagnes de Judée, parce qu'entre la Galilée et la Judée, il y avait quand même du chemin à parcourir, eh bien, c'est sans doute parce que la grossesse d'Élisabeth est tout aussi incroyable que ce qui lui arrive à elle. Dire qu'Élisabeth, dans sa vieillesse, est dans son sixième mois, ça ne peut pas laisser indifférent. Mais il semble que quand même, c'est lorsque l'ange lui donne cette information, c'est plus qu'une simple information pour susciter sa curiosité. C'est peut-être comme un signe donné, une confirmation à cette annonce invraisemblable qu'elle vient de recevoir. Et Luc d'ajouter qu'elle se presse, que c'est en hâte que Marie va entreprendre ce long voyage, comme si tout le reste pouvait attendre. Et surtout, il faut le souligner, encore ancrage dans l'histoire, Marie ne pouvait pas ne pas penser à l'histoire de quelqu'un d'autre, de bien connu dans l'histoire d'Israël. Sarah, l'épouse d'Abraham, dont la grossesse était elle aussi très crépusculaire. Cette rencontre entre le passé et le présent était donc inévitable à ce moment-là de l'histoire de notre humanité. Et on peut encore parler de la présence persistante du passé d'Israël au moment où elle entre dans la maison de Zacharie, au moment où Marie entre dans cette maison. Car, vous l'avez remarqué, il y a une autre rencontre, celle de deux enfants qui ne sont même pas nés en plus. En effet, le tressaillement de celui d'Élisabeth, c'est l'hommage de quelqu'un qui sera un prophète. Ce n'est pas seulement le fils d'un prêtre, mais c'est un prophète. Et même de ce prophète qui ferme la liste des prophètes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, Jean-Baptiste. Alors Dieu poursuit un plan qu'il a engagé avec le peuple qu'il a choisi. Et ça, c'est quelque chose d'important à souligner. En quelque sorte, Dieu reste attaché au canal historique. Après la continuité, eh bien, je parlerai de la nouveauté, puisque malgré tout ce que je viens de dire, il y a aussi quelques éléments de rupture. La grâce de Dieu va se manifester dans la nouveauté, et pas seulement dans la nouveauté des nouveau-nés qui vont arriver. Premier signe significatif, ce n'est pas un prêtre qui va constater cette nouveauté. Vous savez que dans l'Ancien Testament, c'était le prêtre qui devait constater et valider les événements importants dans la famille, par exemple les guérisons des lépreux. C'était le prêtre qui avait la parole publique, surtout pour ce qui concerne le rapport avec Dieu. Eh bien, dans l'histoire, le prophète en fonction, Zacharie, le prêtre en fonction, pardon, Zacharie, lui, ben, il est rendu muet. Il est mis sur la touche. Et ce n'est pas un autre prêtre qui va le remplacer, comme ça aurait été au temple. C'est un laïc, et même, je dirais, une laïque, une femme. Dès le début, Élisabeth comprend qui est vraiment l'enfant que porte Marie, ainsi que son futur rôle. Et puis, comme elle est poussée par l'Esprit de Dieu, eh bien, elle le proclame. Autre élément de nouveauté, le choix des noms dans les premiers chapitres de Luc, qui prend ici toute son importance. Le fils d'Élisabeth s'appellera Jean, ce qui signifie « Dieu fait grâce », ce qui est déjà admirable. Mais celui que porte Marie aura encore un nom encore plus prestigieux, Jésus, de l'hébreu Yeshua, c'est-à-dire « Dieu sauve ». Autrement dit, si l'un annonce la grâce, l'autre la réalise, la met en réalité. C'est une accélération vers cette réalisation du plan de Dieu, réalisation complète. Comme le dit un vieux cantique, la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. On est donc à une charnière essentielle. Cette nouveauté surgit dans une situation où tout semble avoir été mis en sommeil. Élisabeth était stérile et sans doute n'espérer plus grand-chose de ce côté-là. Zacharie ne parlait plus, ne pouvait plus prononcer une seule parole, une seule bénédiction. Son sacerdoce, même sur son lieu de travail habituel, dans le temple, était devenu muet, à l'image de la stérilité de sa femme. Alors, cette nouveauté surgit d'autant plus brillamment. Elle est saluée par le tressaillement de joie émis par un embryon. Elle est accueillie grâce à la révélation que donne le Saint-Esprit à Élisabeth. Elle est célébrée par une parole de bénédiction donnée à Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. À présent, j'en viens un peu plus précisément au cas de Marie. Vous avez déjà entendu dire ceci, hein. Vous les protestants, vous ne croyez pas en Marie. Formulation assez approximative. Mais elle nous a laissé un exemple précieux, hein, intéressant, sur lequel je m'arrête. Donc, pourquoi va-t-elle en hâte chez sa parente ? Alors, sans doute, sans aucun doute, c'est dû à ce que le Seigneur avait prévu. Ce récit est là pour souligner la dignité du futur Messie. Mais il y a autre chose, à mon sens. Outre le vibrant hommage qui lui est fait, Marie reçoit aussi une confirmation concrète de ce que l'ange lui a dit. Elle voit sa parente enceinte malgré un âge avancé. Et elle-même, elle s'entend déclarer qu'elle porte en son sein le Fils du Très-Haut par cette parente qui n'était apparemment pas au courant. Lorsque l'ange lui rappelait à Marie, que rien n'est impossible à Dieu, elle s'était déclarée à la disposition de Dieu, eh bien, heureuse celle qui a cru, dit Élisabeth en la voyant. Alors que, apparemment, elle n'était pas tellement au courant. Or, justement, je dirais que certainement Marie a cru, mais a cru d'une foi qui s'est manifestée non pas seulement par cette déclaration « Je suis au service », mais aussi par un déplacement. Pour Marie, ça a été un déplacement vers les montagnes. Ce qu'elle a cru l'a fait se déplacer. Alors, il n'est pas fait mention explicite d'un ordre que l'ange aurait donné à Marie d'aller voir sa parente, mais pour la porteuse du Fils de Dieu, si l'ange lui fait part de l'œuvre divine chez Élisabeth, elle ne peut pas s'en désintéresser. Si ça lui a été dit, c'est sans doute une piste à suivre. Et sans doute c'est cette foi à laquelle le Seigneur répond en confirmant son appel, en donnant des signes supplémentaires de sa présence. Est-ce qu'elle en avait besoin ? Elle avait vu un ange, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Elle a cru vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais Dieu lui a donné quelque chose de plus. Sa foi a été encore plus encouragée. Celui qu'elle portait déjà en elle a été reconnu par quelqu'un d'autre, alors que jusque-là, elle était toute seule. Elle-même a reçu une part de la gloire de Jésus, honorée toute jeune qu'elle était par une vieille femme qui lui dit « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ?» La mère du Seigneur, ce n'est pas rien. Quant à nous, je vais conclure, nous n'avons pas le même rôle que celui de Marie, évidemment. Mais même si ce n'est pas de la même manière, je crois que nous sommes aussi porteurs de quelque chose. Porteurs de la présence de Dieu partout où nous sommes. Que nous en soyons conscients ou pas, nous sommes porteurs d'un ferment de justice, d'amour et de paix, justement dans un monde injuste et parfois violent. Eh bien, si nous sommes porteurs de cette nouveauté, la grâce du Seigneur peut renouveler nos vies. Nous le savons, nous avons cru, nous avons eu déjà sans doute quelques confirmations, quelques encouragements, mais nous avons toujours besoin d'encouragement. Et le rôle qui nous incombe n'est pas toujours de tout repos. Il peut nous conduire vers des situations difficiles. L'amour de Dieu ou du prochain, ou l'amour de la justice a parfois un prix. Mais comme pour Marie, comme pour Élisabeth aussi, chacune dans sa propre situation, eh bien, au travers des épreuves, il y a la présence de ce Dieu pour qui rien n'est impossible lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de son plan. L'ange Gabriel est là pour le rappeler. Alors le pas de foi auquel Marie nous invite à sa suite peut parfois sembler difficile à faire. Eh bien, il est bon de savoir que Dieu confirme sa promesse à qui répond à son appel à le suivre, à qui s'engage pour le servir. Il peut le faire, même si ce n'est que par la joie qu'il donne, ce qui est déjà beaucoup. Ceux qui ont connu cette joie peuvent le dire. Toutefois, dans notre récit, ce n'est qu'en se déplaçant que Marie a pu recevoir la joie de se savoir à sa place, dans le plan divin. Se savoir à sa place, voilà. Quelque chose d'important. Et il y a, quelque chose, une limite difficile à faire entre la foi qui est réelle et le déplacement qu'elle occasionne. Et nous sommes quelquefois sur cette sorte de ligne de crête. La foi est basée sur une parole du Seigneur, mais l'encouragement vient quand notre foi se met en œuvre. On peut le dire dans notre récit ce jour-là, jeunes et vieux se sont réjouis ensemble. Eh bien aujourd'hui c'est possible, la joie du Seigneur est de nature à nous conforter dans notre foi, même dans les difficultés. Justement, n'ayons pas peur de nous engager ou de nous réengager dans cette aventure. Alors que cette joie du Seigneur soit avec chacun. Amen.